excellente question pour vous. Comment est-ce qu'un croyant doit agir pour attirer les gens à Jésus-Christ? La parole de Dieu va nous donner une réponse que tous les chrétiens ont besoin d'entendre, aujourd'hui même, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. On a encore de très bonnes questions à poser à la première épître aux Thessaloniciens aujourd'hui. Et je suis certaine, mes amis, que vous allez réellement apprécier l'enseignement qui va suivre. Alors voici les questions. Est-ce que c'est par amour que l'apôtre Paul travaillait dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que le salaire est une motivation suffisante pour travailler dans l'œuvre de Dieu? Quelle est la première question à poser à un candidat pour qu'il devienne le pasteur d'une église? Selon la parole de Dieu, que signifie le mot « sainteté »? Dans la vie d'un croyant, qu'est-ce qui attire les gens à Jésus-Christ? Est-il bon de présenter l'Évangile avec une note d'urgence? Comment est-ce qu'on peut agir d'une manière digne de Dieu? Comment est-ce qu'on doit recevoir la parole de Dieu quand on l'entend prêcher? Est-ce que la discipline dans une église est une expression d'amour? Restez à l'écoute. Le pasteur Jean Joly est sur le point de répondre à chacune de nos questions. Et bien sûr, ces réponses viennent de la Bible, de la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on reconnaît que la Bible, c'est ta parole, que cette parole vient de toi, du début à la fin de ce grand livre. Et on sait qu'aujourd'hui, tu vas nous annoncer la vérité par la bouche de ton serviteur. Alors aide-nous, Seigneur, à recevoir cette vérité et à l'appliquer dans chacune de nos vies pour ta gloire, mon Dieu. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons étudié les 7 premiers versets du 2e chapitre de la première épître aux Thessaloniciens. Nous avons vu que l'Évangile, bien prêché, donne des résultats. Dieu appuie sa parole avec la puissance de son Esprit Saint. Nous devons donc proclamer la parole de Dieu avec puissance et autorité. Nous vous avons demandé quel était le meilleur sermon de l'apôtre Paul. Après avoir énuméré les sermons que nous trouvons dans le livre des Actes, des sermons qui parlaient tous de Christ crucifié, nous vous avons dit que le meilleur sermon de l'apôtre Paul était son comportement, l'exemple qu'il donnait à tous ceux de son entourage. Un prédicateur ou un pasteur ne doit pas prêcher pour plaire à son auditoire, mais pour plaire à Dieu. Un pasteur ne devrait jamais modifier son message selon son auditoire. Les paroles flatteuses n'apportent jamais rien de bon. Si quelqu'un nous critique, nous pouvons examiner cette critique et nous corriger si elle est justifiée. Par contre, la flatterie nous amène à nous leurrer à notre sujet. Les amis flatteurs sont plus dangereux qu'un adversaire qui nous critique. Nous vous avons aussi encouragé à examiner votre mobile pour servir Dieu. Le servons-nous par amour pour lui ou pour une raison égoïste? Notre premier désir est peut-être de satisfaire notre convoitise. Finalement, nous avons vu que l'apôtre Paul s'est comparé à une nourrice qui prend soin de ses enfants en parlant de sa relation avec les Thessaloniciens. Nous avons besoin de ce type de pasteur pour faire de la cure d'âme et de la relation d'aide. Certains pasteurs ont de belles connaissances théoriques, mais ne savent pas comment écouter et encourager les gens. Malheureusement, certaines églises ne savent que mettre les chrétiens fautifs en discipline. Chers amis, débutons notre lecture de 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 7 et 8. « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Paul aimait sincèrement les Thessaloniciens. En fait, il était prêt à sacrifier sa vie pour eux. Verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Notre travail et notre peine, nuit et jour. Ceci décrit le travail d'une mère. Nous disons souvent que la journée de travail d'un homme est de 8 heures, mais que celle d'une mère n'est jamais terminée. Une mère n'est pas une nourrice ou une gouvernante salariée. L'apôtre Paul dit qu'il ne comptait pas ses heures parce qu'il recevait un taux horaire pour une semaine de 40 heures. Il n'était pas une gardienne d'enfants embauchée et il n'était pas membre d'un syndicat. Un travail fait par amour est fait de bon cœur. Pouvez-vous imaginer un syndicat pour les mères qui fixerait leur journée de travail à 8 heures par jour? Connaissez-vous des mères qui poinçonnent leur carte après une journée de travail et qui refusent ensuite de se préoccuper de leur bébé qui pleure? Une mère travaille jour et nuit. Deux jeunes filles travaillaient dans une usine. L'une d'elles a quitté son emploi et elles ne se sont pas revues pendant quelques années. Un jour, elles se sont rencontrées par hasard. La fille qui travaillait toujours à l'usine a dit à l'autre « Comment vas-tu? Est-ce que tu travailles? » « Non, a-t-elle répondu, je ne travaille pas, je suis mariée. En plus de mon mari, j'ai un petit garçon. Je me lève à 3 heures du matin pour nourrir le bébé. Ensuite, je me lève tôt pour préparer le déjeuner de mon mari, ainsi qu'un goûter pour l'heure du repas. Je me souviens du temps que tu travaillais à l'usine, » s'est exclamé son ami. « Tu regardais continuellement l'heure et aussitôt que la sirène sonnait à la fin de la journée, tu te dépêchais de partir. » « Je ne surveille plus l'heure, » a répondu la jeune mère. « Je travaille maintenant beaucoup plus d'heures, mais ce n'est pas vraiment du travail. » Cette jeune femme était maintenant motivée par l'amour pour son mari et pour son enfant. Ses tâches ne lui semblaient pas être un travail. C'est ce que l'apôtre Paul explique dans ce verset. Il aimait les Thessaloniciens et il travaillait jour et nuit pour eux. Le salaire n'est pas une motivation suffisante pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Un jour, un membre d'une église a recommandé à son pasteur de visiter quelqu'un. Il lui a dit, « Après tout, vous êtes payé pour faire cela. » Le pasteur lui a répondu, « Tu devras faire toi-même cette visite, car tu n'es pas payé pour la faire. Tu feras probablement un meilleur travail que moi. » Nous ne devons pas servir dans l'œuvre simplement parce que nous recevons un salaire. L'homme a dû faire lui-même la visite en question, et il n'a jamais parlé ainsi à son pasteur. Nous devons nous préoccuper les uns des autres avec la tendresse d'une mère. C'est ce que faisait Paul. Afin de ne pas nuire au ministère, l'apôtre Paul n'a pas accepté de salaire de la jeune église. Il a fait de même à Corinthe. « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'Évangile de Christ. » Citation de 1 Corinthiens chapitre 9, versets 11 et 12. Notez que Paul a souligné qu'un pasteur a le droit de recevoir un salaire. Paul n'a pas usé de son droit pour ne pas nuire à la proclamation de l'Évangile. Cependant, il ne faut pas faire de règlement rigide à ce sujet. Certains affirment qu'il n'est pas biblique de donner un salaire à un pasteur et qu'il doit travailler de ses propres mains. D'autres pensent qu'un pasteur ne devrait pas avoir aucun autre emploi. Il ne faut pas faire de règles rigides, mais examiner ce qui est bien de faire dans nos circonstances particulières. Si l'apôtre Paul n'a pas accepté de salaire des Corinthiens, il recevait des sommes de d'autres églises. Il ne faut pas prendre l'exemple de Paul pour dire qu'il ne faut jamais payer de salaire. « J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir, et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. » 2 Corinthiens chapitre 11, verset 18. En fait, si une église cherche un pasteur, elle doit se demander d'abord si la personne qu'elle considère pour le poste est vraiment appelée du Seigneur et s'il a vraiment à cœur l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que le candidat est motivé par son amour pour Dieu? C'est là la première question à poser. Ensuite, une décision réfléchie doit être prise au sujet du salaire en tenant compte des circonstances particulières de l'Église. Revenons au texte. Lisons 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous êtes témoins. L'apôtre Paul peut parler ainsi parce que les Thessaloniciens savent qu'il dit la vérité. Observez la conduite de Paul alors qu'il était parmi les Thessaloniciens. La sainteté, c'est être fidèle à Dieu. Sainte. Paul s'est acquitté fidèlement de ses devoirs envers Dieu. C'est cela la sainteté. Juste. Paul s'est acquitté de tous ses devoirs envers les hommes. Paul n'a pas négligé ses devoirs, ni envers Dieu, ni envers son prochain. De nombreuses personnes parlent d'être consacrées au Seigneur. Si vous désirez être un chrétien consacré, vous devez marcher dans la piété et la sainteté devant Dieu. Regardez vers Dieu et non vers l'horloge qui annonce la fin de la journée de travail. Ne travaillez pas seulement lorsque votre patron vous surveille. Vous devriez bien travailler en tout temps, car Dieu vous voit continuellement. Il est omniprésent, ce qui signifie qu'il est prêt de vous à chaque minute. Vous avancez à la fin d'une réunion et versez quelques larmes pendant que quelqu'un prie pour vous, ne fait pas de vous un chrétien consacré. Qu'est-ce que votre patron pense de vous? Si vous êtes un étudiant, qu'est-ce que votre enseignant ou votre professeur pense de vous? Si vous êtes paresseux, alors vous n'êtes pas consacré. Une vie consacrée est une marche chrétienne sainte qui se fait en présence de Dieu. Qu'est-ce qui attire les gens à Jésus-Christ? Irréprochable. Cela signifie que personne n'était en mesure de prouver une accusation contre l'apôtre Paul. Ses ennemis pouvaient porter plusieurs accusations contre lui, mais personne ne pouvait prouver quoi que ce soit parce que sa conduite était exemplaire et conforme aux voies de Dieu. Les gens vont dire des calomnies à notre sujet. L'important, justement, c'est que ce soit des calomnies, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas vraies. L'apôtre Paul et ses compagnons marchaient dans la sainteté. Une telle vie vaut quelque chose. Elle ne vous sauve pas, puisqu'elle est le résultat de votre salut, mais elle attire les gens de votre entourage au Seigneur Jésus. Si vous dites que vous êtes chrétien, soyez assurés qu'on vous observe. Versets 11 et 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous exhortant. Le mot grec pour exhorter est parakaleo, ce qui signifie que l'apôtre Paul est venu à leur côté pour les aider, les encourager et les convaincre. C'est le même mot qui est utilisé pour décrire la tâche du Saint-Esprit. Rappelez-vous que le Seigneur Jésus a dit qu'il enverrait le Saint-Esprit qui convaincrait le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Citation de l'Évangile selon Jean chapitre 16, les versets 7 à 11. J'ai toujours pensé que l'Évangile n'est pas présenté par la puissance du Saint-Esprit, à moins qu'il soit présenté de façon à ce que le Saint-Esprit puisse l'utiliser pour convaincre un homme de péché. L'Esprit convainc les gens de péché, de justice et de jugement. Ces trois éléments doivent se trouver dans une présentation de l'Évangile. L'Évangile doit être prêché avec une note d'urgence, vous consolant. Le mot utilisé ici n'a pas le sens habituel qu'on lui donne. Nous retrouvons son sens habituel dans l'aspect du ministère de Paul, représenté par l'image d'une mère. Dans le verset présent, le mot a plutôt le sens de persuader. Son sens comprend une note d'urgence. L'apôtre Paul présentait son message en faisant ressortir son urgence. Paul utilisait souvent l'expression « je vous exhorte ». Nous devons présenter l'Évangile avec ce sentiment d'urgence. Vous conjurant. Paul conjurait les Thessaloniciens et les gens à qui il présentait l'Évangile. Dans cette expression, nous avons une note de sévérité et de discipline. C'est une expression forte et virile. Je crains qu'aujourd'hui, nous ayons beaucoup de messages aux paroles doucereuses données à un auditoire de chrétiens qui aiment se faire dorloter par un pasteur qui ne soulève pas de vagues. Ces messages ne font pas ressortir l'urgence que l'on trouve dans le message de l'Évangile. De nombreux pasteurs ne donnent que des messages doux et flatteurs. Ils craignent de perturber leur auditoire, car certains pourraient quitter l'Église. Ils ne parlent que de l'amour de Dieu, ou ils enseignent de la psychologie parsemée de vocabulaire chrétien pour donner à cette pseudo-science une apparence de christianisme. Lorsque l'on voit les sujets de sermons annoncés à Pâques dans certaines églises, il ne faut pas s'étonner que les gens n'aient pas envie d'aller l'entendre. Que pensez-vous de Pâques, un temps pour donner des fleurs? Un jour, un évangéliste méthodiste du sud des États-Unis a dit « Certains sermons ne contiennent pas assez de nourriture pour servir une soupe à une sauterelle malade. » Comparé à ce genre de message, le ministère de Paul était glorieux. Dieu pouvait le bénir. Marcher d'une manière digne. L'apôtre Paul a aussi demandé aux Éphésiens de marcher ainsi. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Citation d'Éphésiens chapitre 4, verset 1. Marcher d'une manière digne de Dieu, ce n'est pas imiter ses perfections, ce que nous sommes totalement incapables de faire, mais imiter ses œuvres de bonté, de bienveillance, de justice et de sainteté. Pour ce qui est de la sagesse et de la puissance, il faut compter sur le Saint-Esprit. Nous n'avons pas cela en nous-mêmes. L'Esprit nous donne sa puissance pour agir et il ouvre notre esprit afin que nous comprenions les vérités bibliques. Dieu invite les saints dans son royaume, c'est-à-dire son royaume millénaire, et dans sa gloire, c'est-à-dire le royaume éternel. Autrement dit, assurez-vous de garder l'œil sur le plan et le but de Dieu. Vivez en fonction de l'éternité. C'est une motivation très forte pour nous encourager à manifester le caractère de Dieu. Revenons au texte de 1 Thessaloniciens chapitre 2, lisons cette fois le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Chers amis, comment recevez-vous la parole de Dieu? Pour transmettre le message de l'Évangile, il faut un émetteur et un récepteur. L'apôtre Paul a déjà dit « Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. » Citation de 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 5. C'est ainsi que le message de l'Évangile doit être émis. Cependant, de nombreuses personnes critiquent les pasteurs et les prédicateurs. Je leur dis ceci. Si un homme prêche l'Évangile avec la puissance divine, le message devrait être reçu comme étant la parole de Dieu. Comment recevez-vous la parole de Dieu? La recevez-vous comme la parole de Dieu? Ou bien, vous mettez-vous en colère? Est-ce que vos cheveux se redressent sur votre tête? Il arrive parfois qu'un pasteur soit approché par une personne qui s'est sentie visée par son message, comme si le pasteur avait intentionnellement parlé d'elle. Il se peut que le pasteur ne connaisse pas très bien cette personne si l'Église est suffisamment grosse. Cependant, le véritable problème, c'est que ces personnes ne reçoivent pas le message comme étant la parole de Dieu. Nous avons vu comment l'apôtre Paul a prêché la parole de Dieu. Elle a irrité certaines personnes parce que la parole, c'est du sel. Et du sel brûle lorsqu'il est répandu sur la plaie du péché dans la vie d'un individu. La parole est aussi la lumière du monde, mais de nombreuses personnes préfèrent les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. Si la parole de Dieu a eu tant d'effet sur les Thessaloniciens, c'est qu'ils l'ont reçue comme étant la parole de Dieu. Ils l'ont reçue avec foi. Croyez-vous que la Bible soit la parole de Dieu? Si vous ne le croyez pas, vous ne connaîtrez jamais sa puissance libératrice, et le Seigneur Jésus ne pourra pas s'en servir pour combler votre âme. Vous avez sûrement entendu dire que la Bible est la parole de Dieu, et vous avez entendu des gens affirmer le contraire. Avez-vous déjà pris le temps de l'examiner? Ou bien, vous laissez-vous guider par des personnes qui ne la connaissent pas plus que vous? Si vous désirez investir de l'argent, vous la confiez à une banque ou à un spécialiste. Vous ne la confieriez pas au premier venu. Ne confiez pas n'importe qui pour l'état éternel de votre âme. Lisez la Bible en demandant à Dieu de vous éclairer par son Saint-Esprit. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul enseigne que l'Église de Dieu devrait refléter la famille de Dieu sur la terre. Il a parlé de la relation d'une mère, de ses enfants, de la relation d'un père et de ses enfants, et maintenant, de la relation entre frères et sœurs. Certaines personnes affirment que leur église est un lieu adapté pour la famille. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a une pouponnière pour les bébés, des classes pour les enfants, une classe pour les préadolescents, une classe pour les adolescents, une classe pour les jeunes adultes, une classe pour les couples, une classe pour les personnes seules et une classe pour les aînés. Je ne crois pas que l'apôtre Paul aurait divisé une église de la sorte. Et ce n'est pas ainsi que l'église peut être un miroir de la famille de Dieu. L'Église locale devrait révéler Dieu par la façon de vivre de ses membres. Une Église locale devrait révéler qui est Dieu à sa communauté, tout comme devrait le faire une famille chrétienne. La relation entre le mari, l'épouse, et les enfants devrait illustrer les trois aspects de l'amour de Dieu et de Jésus-Christ pour le monde. L'apôtre Paul a déjà traité de l'aspect maternel, en comparant son ministère et celui de ses compagnons à une nourrice qui prend un soin tendre de ses enfants. Il était prêt à travailler jour et nuit pour répondre aux besoins des chrétiens de Thessalonique. Il ne se contentait pas de faire une journée de travail de 8 heures. Il était toujours disponible pour les Thessaloniciens. L'amour s'exprime dans la discipline. Puis, l'apôtre Paul a comparé son ministère à celui d'un père. Un enfant a besoin de recevoir de l'amour de son père autant que de sa mère. Les divorces et les séparations des parents marquent les enfants. Souvent, l'enfant ne reçoit pas l'amour qu'il devrait de son père. L'amour du père est exprimé par la discipline, mais pas uniquement par la discipline. L'apôtre Paul a dit qu'il était comme un père pour l'Église de Thessalonique. Certains pasteurs et certains prédicateurs n'enseignent que les éléments agréables de la Bible. Ils ne cherchent qu'à réconforter les gens. Les gens aiment ce type de pasteur. En effet, qui n'aime pas se faire réconforter? Parfois, un massage fait du bien, ou même encore un bon bain d'eau chaude. Cela est réconfortant physiquement. Cependant, le réconfort n'est pas suffisant. Il faut aussi de la discipline. Je crains que l'aspect paternel de la discipline manque non seulement dans nos foyers, mais aussi dans nos églises. Christ en est le chef et nous sommes soumis à son autorité. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant 1 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 14 à 20. Bonne lecture à tous!
Merci beaucoup, Régent. Mes amis, qu'est-ce qui attire les gens à Jésus-Christ? Régent nous a bien répondu en disant que l'apôtre Paul avait une conduite exemplaire et conforme aux voies de Dieu. C'est comme ça qu'il attirait les gens à Jésus-Christ. Et ce qui m'a particulièrement touchée, c'est que parfois, les gens disent des calomnies à notre sujet, à nous, les chrétiens, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas vraies, alors qu'on marche en observant la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur en Jésus-Christ, est-ce que tu marches dans la sainteté? Comme Régent nous l'a décrit aujourd'hui. Il a aussi dit que les gens nous observaient. C'est tellement important qu'on en soit constamment conscient. Il m'arrive souvent, quand je quitte la maison pour faire des courses, de prier dans l'auto en pensant aux endroits où je m'en vais. Je sais que j'irai à la banque, à la pharmacie, au supermarché et parfois ailleurs. Alors ce que je demande à Dieu, c'est qu'il m'aide à sourire à toutes ces personnes, toutes celles que je vais rencontrer, qu'il m'accorde de la patience s'il y a un problème à la caisse et que la file est longue, qu'il se serve de moi pour attirer les gens à lui. À mon épicerie, il y a souvent une caissière en formation. Et ça prend encore plus de temps à passer. Il y a quelques semaines, c'était le cas. La jeune fille a fait une erreur et je pouvais voir qu'elle était très mal à l'aise. Alors je lui ai dit que je l'admirais et que je n'étais pas certaine que je pourrais moi-même accomplir le travail qu'elle était en train d'apprendre. Que ça n'avait pas l'air si facile que ça. Quel soulagement j'ai pu voir dans son visage. Et la personne qui la formait était une habituée que je voyais régulièrement à ce supermarché. Qui sait si elle n'est pas une candidate pour le royaume de Dieu? Et toi, mon ami, est-il possible que tu sois un candidat ou une candidate pour le royaume de Dieu? Est-il possible que tu m'écoutes présentement et que tu penses en toi-même que, justement, tu aimerais que les gens t'offrent un sourire ou une parole d'encouragement en passant, simplement parce que tu es souffrant ou seul au monde? Eh bien, permets-moi de te présenter celui qui t'aime par-dessus tout, celui qui est ton Créateur et qui veut devenir ton Sauveur, ton Seigneur. Son nom, c'est Jésus. Il t'aime tellement qu'il a donné sa vie sur la croix pour toi il y a environ 2000 ans. Et son Père t'aime tellement qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Mon ami, Dieu veut te consoler. Il veut être ton papa, celui qui va prendre soin de toi, qui va t'accueillir au ciel le jour où il sera temps que tu quittes cette terre. Aimerais-tu être certain de passer l'éternité au ciel? Eh bien, place ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés, pour le don gratuit de la vie éternelle. Avoue que tu es un pécheur, une pécheresse perdue, et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Détourne-toi de tout ce que tu reconnais comme étant péché dans ta vie et tourne-toi vers Jésus. Il frappe à la porte de ton cœur en ce moment. Alors laisse Jésus entrer dans ton cœur.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer. Et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé. Et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, le G1G-6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.